Si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable au mimosa en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et les toiles qui passent, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de Baratier. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirais le bout de tes jolis seins roses, je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses, rajeunirais toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur, et sois la plus heureuse étant la plus jolie, ô mon unique amour et ma grande folie. Guillaume Apollinaire, poème à Loup, 1915.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang qu'évoque à mon invité d'aujourd'hui ces vers d'Apollinaire écrits en 1915. Elle est romancière, poétesse et lauréate du prestigieux prix Apollinaire qui lui sera remis ce soir au De Mago pour Les Ronces, son premier recueil publié aux éditions du Castor Astral. C'est la première fois qu'une si jeune auteure se voit ainsi récompensée pour un tout premier recueil et c'est un honneur de la recevoir ce matin pour l'annoncer en avant-première, en exclusivité. Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour.
Merci beaucoup
d'être
là. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous évoque à vous, Guillaume Apollinaire? Quel poète est-ce que c'est pour la jeune auteure que vous êtes ?
Alors, Guillaume Apollinaire, on se dit, que peut-on écrire après ça en tant que poète ? Il y a une forme de perfection simple en fait. Guillaume Apollinaire parle à tout le monde, a écrit pour tout le monde, et il y a chez lui une intensité, une humanité intense qu'on retrouve peu en poésie française. Quand on lit Guillaume Apollinaire, on peut le lire à 7 ans et on peut le lire sur son lit de mort. C'est ça qui est beau.
C'est pour ça qu'on fait de la poésie aussi ?
On fait de la poésie pour pardonner aux autres, pour se pardonner soi-même ou pour demander pardon, mais on fait de la poésie pour le plus grand nombre, c'est certain.
C'est un poète combattant aussi, Guillaume Apollinaire, dont le nom demeure associé au souvenir de la Première Guerre mondiale, dont on commémore le centenaire de l'armistice. Cette image du poète au front, du poète dans la guerre, un poète patriote, quelle réflexion est-ce que ça fait surgir chez vous ?
La réflexion, en tout cas l'image que chez moi ça fait surgir, c'est qu'on a ici un mélange de violence extrême qui donne naissance à une beauté extrême. Et je ne peux qu'être absolument admirative et en même temps très triste face à ça, mais me dire que dans des moments pareils, des gens sont capables de faire surgir une splendeur de ce niveau-là, je suis obligée de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait nous ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous, quand ça a eu lieu ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Cécile Coulon, vous faites partie comme moi d'une génération qui n'a jamais connu la guerre. Défendre son pays, défendre la France, pour vous en tant que citoyenne, auteur, poète, ça passerait par quoi ?
Alors déjà, ça passe par une idée politique très individuelle, c'est-à-dire de faire ce qu'on peut pour ce qu'on aime, à son petit niveau. En tout cas, prendre soin des gens qu'on connaît, c'est déjà pas mal. Faire attention. C'est très bête ce que je dis, c'est faire attention, être à l'écoute, essayer de comprendre ce qui fait mal aux autres, ce qui nous fait mal à nous. Et surtout, il y a la question de la liberté pour moi là-dedans. Pour moi, la liberté, ce n'est pas se moquer des autres, c'est faire ce qu'on a envie de faire sans faire mal à celui qu'on ne connaît pas.
Mais contre quoi il faut le défendre aujourd'hui, ce pays, pour vous, à votre avis ?
L'obscurantisme, alors là j'utilise un terme très littéraire et très ancien, mais le problème c'est qu'il est très au goût du jour aussi, contre l'obscurantisme, contre, alors je dis ça à la radio, mais contre une certaine forme de brutalité des médias aussi. Beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, donc beaucoup de gens savent de quoi je parle. Et peut-être contre une forme de rapidité avant tout. Ça c'est quelque chose, alors en plus en tant que poétesse, évidemment je me bats contre ça, mais... Une seule phrase ne peut pas, ne pourra jamais décrire tout un état d'esprit ou décrire tout un pays. Et j'ai vraiment la sensation aujourd'hui qu'on est dans une course, mais, et pourtant j'aime courir en plus, c'est ça qui est très bizarre, mais dans une course au clinquant, au bling-bling, et qu'on oublie que derrière, on a besoin de réflexion, on a besoin de débat, on a besoin d'écouter ce que les autres ont à dire, parce que pour avoir une intelligence, il faut d'abord se taire.
Alors la poésie, ce serait ça, le temps, Cécile Coulon, le silence, la profondeur ?
Je pense que la poésie, c'est la permission du temps. ou en tout cas la permission de se donner le temps. Alors évidemment, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, parce que quoi qu'on écrive en poésie, on a toujours l'impression qu'une fois que le poème est terminé, que c'est pas bon, et qu'on n'a pas su tout dire. Donc il y a cette course contre le... En tout cas, après le temps, en tout cas. Mais c'est surtout s'autoriser de faire un pas de côté pour écrire.
Il se trouve que dans Les Ronces, votre recueil primé par le prix Apollinaire, je le disais, il y a un poème qui s'appelle « Ma France ».
Oui.
Et j'aimerais que vous nous le disiez, si vous voulez bien.
Avec plaisir. « Ma France ». C'est un village boursouflé de maisons basses, un château, une église et des chiens qui aboient sur la place. Les enfants, à 4 heures, vont fumer dans les bois. C'est là que je suis née, dans la paume de cette France où les araignées soupirent l'hiver au fond des salles de bain. Mes granges écroulées m'appellent, je m'ennuie loin du foin. Mes larmes se sont perdues, je ne retrouve plus les vraies raisons de mon chagrin. Ma France a laissé ses orages comme unique souvenir d'un temps où je ne me rendais pas malade, d'un temps où les chevreuils cinglaient de leur course folle l'écorce des sapins, un temps où je renversais sur la table le sucrier tous les dimanches matins. Il ne me reste rien d'autre que l'odeur de la terre mouillée que l'aube répand sur des murets solides. Mon corps ne répond plus, désormais mon cœur habite une colline en hauteur sans chèvres ni moutons. Je n'y monte pas souvent, je manque de patience, je déborde d'images remplies d'histoires qu'il ne faudrait sans doute pas raconter autrement qu'en gestes simples, autrement qu'en souffle court. Sur la colline, le malheur ne grimpe jamais. Par chance, je ne ressens ni soif ni faim. Tout est calme comme après une petite mort. Ma France est un lit chaud, les draps n'ont pas été changés et chaque nouveau sanglot fait gonfler les plumes de l'oreiller.
Votre France, Cécile Coulon, elle n'a pas de majuscule dans votre texte. Et je ne pense pas que ce soit si innocent que ça, si ?
C'est pas du tout innocent. De toute façon, rien n'est innocent quand on écrit. On n'est pas du tout innocent quand on se met à écrire. Elle n'a pas de majuscule parce que je pense que parfois, retirer les majuscules des noms, c'est aussi leur retirer la crainte qui habite ceux qui les entendent. C'est aussi se mettre au niveau des gens qui vivent dans ces endroits-là.
Une France minuscule.
Une France immense, remplie de gens minuscules, qui la remplissent comme une fourmilière.
Vous savez, à vous lire, c'est comme si l'absence de majuscules, pour moi, venait la remettre aussi un peu à sa place, la France, quitte à lui enlever un petit peu de son arrogance. Non ?
On lui enlève de son arrogance, mais on lui rend un peu de sa dignité. Peut-être que c'est ça, peut-être que... Il y a ce, comment dire, en tout cas chez moi, est-ce que c'est une question de génération ? Il y a cette prégnance importante des tags, du rap aussi, des mots qu'on griffonne dans la marge, des cahiers de texte et des agendas, je sais pas si ça existe encore, ça, au collège. Mais nous, c'est ce qu'on faisait, on se faisait passer nos agendas et on écrivait des petites choses comme ça. Et à la fin de l'année, tout le cahier était rempli de ces petites mots, de ces punchlines. Et... Les mettre les uns après les autres, ces moments, ça faisait un très très long poème, comme un journal intime de poèmes d'écolier. Et je pense que chez moi, c'est resté très très fort. Et c'est vrai que dans ce recueil, il n'y a quasiment jamais de majuscules.
Dans quelle France est-ce que vous avez l'impression d'écrire et de vivre, vous, Cécile Coulon ?
Je pense que je ne vis pas dans une France périphérique, je vis dans une France qui est assez rurale. Je vis en Auvergne. Et on est encore un petit peu coupé de tout d'un point de vue géographique et je trouve ça absolument génial. Je fais partie des gens qui trouvent ça très bien et on a la chance d'avoir des paysages incroyables, une espèce de petit Montana, c'est très agréable. Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression d'être complètement à côté de la plaque, pour dire les choses très trivialement, d'être complètement à côté de ce qui se passe et en même temps d'adorer ça. C'est-à-dire que qu'à un moment donné, effectivement, on est soumis beaucoup plus, je pense, dans certains endroits en France, au rythme des saisons, au rythme des horaires aussi. Tout n'est pas toujours ouvert, tout n'est pas toujours disponible. Et que parfois, tout ne soit pas toujours disponible, c'est une chance. Et ça nous aide une fois de plus à nous remettre à notre place et ça nous donne un petit peu d'humilité. Et je pense qu'on en a besoin actuellement de cette humilité-là.
À qui le dites-vous ? Celle qui ne pense qu'en majuscules dans cette émission, sans doute la connaissez-vous ? C'est la culture et son actualité prétentieuse. moi d'abord. Franchement grossière, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 12 novembre ? Lundi exclu, lundi scoop, lundi révélation. Dans Boomerang, sortez vos stylos. Le prix Wepler Fondation La Poste 2018 est décerné à La Robe Blanche de Nathalie Léger pour son roman Tout en finesse sur le féminin et sa transmission. Et mention spéciale pour Bertrand Schaeffer et son livre Série noire, polar remarquable sur les pouvoirs de la fiction et de l'imaginaire, publié lui aussi chez POL. Le grand prix de littérature américaine est lui décerné à Richard Powers pour L'autre monde, traduit de l'américain par Serge Chauvin aux éditions du Cherche Midi. On dit oui. À l'aventure, à La Rochelle surtout, puisque c'est là-bas que débute aujourd'hui le Festival international du film d'aventure, au programme de cette 15e édition présidée par Jean-Marc Barr. Il y aura un documentaire sur le navigateur Mike Plant, un film hommage au Grand Bleu, des projections de films d'aventure tournés aux quatre coins du globe, dont 15 seront en compétition. Il y aura aussi des rencontres, des dédicaces, des ateliers pour les enfants en avant.
Bon, c'est une des plus grandes réalisations dans tous les sens du terme. C'est une chose où il y a eu pratiquement autant de travail dedans que dehors.
Bon anniversaire, le Louvre Abu Dhabi, qui a accueilli plus d'un million de visiteurs depuis son inauguration en novembre dernier, souvenez-vous, on y était. Le premier musée à porter le nom du Louvre à l'étranger se classe déjà parmi les 100 musées les plus fréquentés dans le monde. Et en guise de cotillon, y voit grand. Spectacle, concert, exposition spéciale prévue pour l'occasion et surtout l'annonce de prochains prêts d'œuvres de musées français. Ça, c'est frais.
Il faut savoir que 41% des auteurs professionnels sont très en dessous du SMIC. Comme ça fait 15 ans qu'on ne sait plus comment dire au gouvernement qu'on s'en sort plus, bah y a des gens qui arrêtent déjà et qui sont nombreux.
Toutes et tous ligués pour les auteurs. Johan Sfar a rappelé ce week-end l'importance de la Ligue des auteurs professionnels fondée le 6 septembre dernier, qui a déjà enregistré de nombreuses adhésions. Ce collectif inédit se ligue pour sauvegarder le métier, améliorer les conditions de création en France. Adhérer à la Ligue, ça prend 5 minutes, ça coûte 5 euros. Hashtag paye ton auteur, hashtag auteur en colère, hashtag tous solidaires. Et la jeune romancière et poétesse Cécile Coulon, lauréate du prix Apollinaire, on le disait pour les ronces, mon invité ce matin. Je sais que c'est un combat qui vous tient à cœur, ce combat-là, que vous partagez avec Johan Sfar pour les auteurs.
Ah, mais complètement. Alors j'avais écrit un texte il y a quelques mois déjà, lors d'une soirée qui avait eu lieu à la Maison de la Poésie, pour parler de ça. Parce que il y a quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement logique qui est affreux, c'est qu'aujourd'hui les auteurs sur un livre qu'ils écrivent sont ceux qui touchent le pourcentage le plus faible. Et ça ne choque personne visiblement, à part les auteurs eux-mêmes, puisque comme on l'a entendu tout à l'heure, la plupart vivent très 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 mal de leur plume.
Donc qu'est-ce que vous attendez concrètement en fait en tant que...
Moi j'attends concrètement en fait que la plupart des éditeurs soient solidaires de leurs auteurs, parce qu'en fait sans les auteurs il y aurait pas de livres. Alors évidemment ces livres ne seraient pas publiés ni imprimés sans les éditeurs. Mais qu'on cesse enfin cette guerre entre éditeurs et auteurs.
Remettre l'auteur au centre du projet, du travail, en fait.
Qu'il soit au centre du projet et que l'auteur, dans les maisons d'édition, soit au courant de ce qui se passe autour de son livre, à quoi ressemble cette fameuse chaîne du livre, parce que sur un livre, on oublie qu'il y a quand même 10 personnes qui sont payées, et que l'auteur est tout au bout, alors qu'il devrait être... En tête de file, quoi.
Vous savez, je trouve ça passionnant et je pense que j'en parlerai à Héloïse d'Ormesson, éditrice, qui sera mon invitée mercredi.
Avec plaisir.
Parce que ça me paraît important, Cécile Coulon. On revient à votre recueil Les Ronces, recueil habité, on le disait, par un territoire qui nous est cher, en l'occurrence à tous les deux. L'Auvergne. Dans quel paysage est-ce que vous êtes né, vous?
Alors moi, je suis née dans un petit village qui s'appelle Saint-Saturnin. Et ce village est construit sur une coulée de lave, une ancienne coulée de lave. C'est un endroit magnifique. C'est entre Clermont-Ferrand et les grands lacs, mais c'est pas des grands lacs, et les lacs. Et donc, mon enfance s'est construite autour des cassettes de Jean Ferrat et de Bob Dylan dans la voiture, des lacs où on va nager, des forêts où on va pique-niquer. Et tout ce petit fatras a donné naissance à ces poèmes. C'est-à-dire que
ça a vraiment façonné votre imaginaire.
Mais ça a façonné mon imaginaire, ça a façonné ma vie entière. Aujourd'hui, je suis incapable de vivre dans une grande ville. Je suis perdue. Aujourd'hui, ce matin, j'ai pris le métro. C'était une aventure pour moi. C'était juste exotique.
Alors qu'il y a des poèmes dans le métro.
Il y en a plein. Il y en avait un de Guillaume Apollinaire qui s'appelle Le Pan, d'ailleurs, bon, qui était juste devant moi. Mais il y avait aussi beaucoup de gens devant moi et beaucoup d'odeurs aussi. Je crois que je suis plus à l'aise avec l'odeur des vaches que l'odeur des gens dans le métro.
La transpiration matinale parisienne, qu'est-ce qu'on ferait sans cette Auvergne natale? Vous l'avez jamais quittée et votre vie de romancière est faite d'ailleurs de retour en train entre Clermont-Ferrand et Paris. Quelles images vous viennent en tête lorsque vous pensez à ces trajets, justement?
C'est l'image du pendulaire. Qui a déjà pris ce train entre Clermont et Paris, c'est qu'on a l'impression d'être en bateau. On se dit qu'on va arriver en Corse à la fin. Moi j'ai écrit beaucoup de poèmes dans ce train, d'une part parce que le trajet est excessivement long, mais c'est très bien du coup, parce que c'est comme ça qu'est né ce recueil. Donc merci la SNCF SNCF et merci pour les retards. Je pense qu'on leur dit pas assez merci pour ça.
Pour le temps, on y revient toujours.
Pour le temps. Et puis, il y a quand même un moment qui est assez magique. C'est quand on arrive un peu avant Clermont-Ferrand, on voit la chaîne des volcans du train. Et alors ça, pour moi, c'est un moment, j'ai l'impression de rentrer dans le monde de Narnia. Vous voyez, de passer cette espèce d'armoire magique et d'être dans un nouveau monde. Et c'est vrai que c'est, pour moi, l'Auvergne, c'est un peu la terre du milieu. Donc c'est, de toute façon, une terre d'imagination, une terre qui est très noire, qui est mouillée, qui est parfois un peu rude. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau.
Bah ouais, vous me collez le frisson, évidemment, vous parlez à un convaincu. Paris, quelle ville est-ce que c'est pour vous, Cécile Coulon? Ville absente de votre recueil, ville si souvent célébrée en poésie, y compris par Apollinaire d'ailleurs, qu'elle en est devenue une sorte de cliché.
Oui, alors après, de toute façon, comme toutes les capitales, Paris est un cliché. Et heureusement, ça veut dire que ça fonctionne bien pour elle, on est content. Mais étant donné que je connais très mal Paris, pourtant ma famille, une partie de ma famille y vit, et il y a aussi Paris et sa banlieue. Je pense que ce qui est intéressant à Paris, c'est ce qui se passe artistiquement dans les banlieues d'ailleurs. C'est là qu'on trouve de très très beaux textes. Mais pour l'instant, je ne me suis pas encore penchée sur Paris. J'ai plus l'impression que c'est Paris qui se penche sur moi.
Mais c'est intéressant que vous disiez ça, encore une fois, la périphérie. Parce que j'ai l'impression que rester, vivre en Auvergne en tant que romancière, en tant que poétesse, pour vous, c'est aussi une façon de lutter contre ce cliché entretenu par la littérature qui fait de Paris le symbole de la réussite lettrée.
Non ? Absolument. Moi, je pense que réussir, c'est être là où on se sent bien. Pour moi, réussir, c'est être heureux. C'est pas forcément d'être dans un endroit. C'est pas donner la preuve aux autres qu'on a réussi. C'est donner la preuve à soi-même. Et c'est autrement plus compliqué. Et or, moi, j'ai l'impression de réussir quand je peux me lever à l'heure que je veux tous les matins et quand il y a un troupeau de vaches qui me passe sous le nez. Donc, effectivement, Paris, pour moi, n'est pas du tout un symbole de réussite. Après, évidemment, ce serait malhonnête de ma part de dire que Paris ne compte pas puisque c'est là où sont mes maisons d'édition.
Mais ce que vous nous dites quand même en creux, c'est que la littérature a posé un filtre entre notre perception et la réalité. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, avec un réseau social comme Instagram où s'affichent des photos filtrées sans cesse, qu'est-ce que ces filtres nous disent de l'époque dans laquelle on est, Cécile Coulon?
Ces filtres, je pense, nous disent qu'aujourd'hui, on est incapable de se montrer autrement que dans la version la meilleure de nous-mêmes qu'on veut donner. C'est-à-dire que on ne se voit pas et on n'accepte pas que les autres nous voient, que ce soit physiquement, intellectuellement, psychologiquement, comme nous sommes, parce que on n'accepte pas d'être monstrueux, même si on sait pertinemment qu'on l'est.
Alors, quelle place pour la poésie sur les réseaux sociaux?
Je crois que la poésie renaît sur les réseaux sociaux, parce que justement, elle vient peut-être enlever tous ces filtres. C'est une espèce de bombe au milieu des filtres Instagram.
Elle vient résister.
Elle résiste, et puis visiblement, elle est demandée. Je pense à cette poétesse canadienne qui s'appelle Rupi Kaur, qui a écrit Lait et Miel, et ça a commencé sur Instagram. Aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui suivent cette poétesse et qui suivent ses poèmes, qui sont incroyablement beau, alors d'une cruauté sans nom. Mais c'est ça, être sans filtre, c'est d'une cruauté sans nom.
Mais je crois que votre recueil de poèmes, Les Ronces, est né sur les réseaux sociaux, sur
Absolument.
Facebook, en l'occurrence, où vous avez commencé à poster vos poèmes. À l'origine, c'était dans quel but?
Au départ, je me suis inscrite sur Facebook parce que je me disais, d'une part, je n'avais pas le courage d'envoyer mes poèmes à des éditeurs. J'avais aucun courage là-dedans.
Pourquoi?
Ah, parce que je me disais, mais ça ne va intéresser personne. Alors je distillais ma poésie dans mes romans, je faisais des pauses poétiques dans mes romans, mais je n'avais pas ce courage. Et je me suis dit, s'il y a bien un endroit où je peux essayer, ce sera Facebook. Donc je me suis inscrite sur Facebook. Au départ, je mettais des phrases uniquement. Maintenant, je mets des poèmes. On est passé de 200 lecteurs à 13 000 ou 14 000 aujourd'hui. Donc il y a eu vraiment, vraiment une communauté qui s'est créée autour de ces poèmes-là. Aujourd'hui, le livre est paru au Castor Astral. On fait une lecture avec
une très grande maison de poésie.
Absolument. Donc pour moi, c'était un honneur d'être chez eux. On fait une lecture avec une comédienne qui s'appelle Marie Bunel et un accordéoniste de jazz qui s'appelle Yannick Chambre pour justement faire passer ses poèmes autrement, par la voix. Et c'est vrai qu'au départ, la poésie, pour moi, elle a commencé alors dans la voiture avec Jean Ferrat, mais aussi dans le virtuel, en fait.
Oui, et paradoxalement, j'ai l'impression que c'est une façon pour vous d'aller vers les autres, de les toucher, d'être encore plus dans le réel, en fait.
D'être dans le réel, ou en tout cas d'enlever, j'ai presque envie de dire, tous les intermédiaires possibles, de dire voilà, je mets même pas une photo de moi avec, je mets rien d'autre que le texte, rien d'autre que même pas la voix, le texte simple, le mot, le langage, et qu'on revienne enfin à ce langage le plus simplement possible.
On crée aussi dans des situations, dans un paysage, dans cette Auvergne, dans cette commune, Esaü, dans la Drôme, dans ces montagnes, et on va écouter la montagne pour vous, et pour mon grand-père auvergnat aussi, tiens, Gilbert Trapenard, à qui j'associe cette si belle chanson de Jean Ferrat et qui nous écoute, si ça se trouve, là-haut, là-bas, je sais pas, 1965. Vous êtes sur France Inter avec Cécile Coulon. Vous écoutez Boomerang, naturellement.
Ils quittent un pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On est quelque part entre Fifi, Brin d'Acier, Pierre Oxydé, l'icône New Age et Heidi, avec sa bouille ronde, vous savez, son teint frais, son œil vif et intelligent, ses attaches fines, on l'imagine gravissant les sommets à perdre haleine tel un chevreuil, se rouler dans l'herbe verte en hurlant de rire, se baigner dans des sources cachées en chantant à tue-tête Jean Ferrat, tiens, ou les Ramones, avec son sweat à capuche noire ce matin et son petit bracelet rose, Cécile Coulon, romancière et lauréate du prestigieux prix Apollinaire pour son recueil de poésie, Les Ronces, et j'aimerais qu'on revienne sur ce titre, sur lequel, il paraît, vous avez beaucoup hésité. Qu'est-ce qu'elles ont de poétique, les ronces, Cécile ?
Alors, toute personne qui s'est promenée, enfant ou pas, dans la campagne, sait à quel point les ronces sont quelque chose qui fait peur, et en même temps quelque chose dans lequel on a envie de se jeter pour attraper les murs qui sont cachés derrière. En plus, on fait du miel de ronce. J'ai appris ça, je trouve ça... Encore une fois, je trouve ça très beau de se dire qu'un végétal qui fait peur, qui pique, qui est épineux, puisse donner quelque chose d'aussi doux que le miel. Alors ça me parle beaucoup parce que pour moi un poème c'est ça. Un poème, ça fait peur quand on en parle. Quand on dit le mot poésie, les gens ils ont peur, ils ferment leur volet. Et pourtant quand enfin ils l'entendent ou ils la lisent, ils disent mais oui, ça me parle. Il y a cette idée-là. Et puis alors il y a une référence à un poète que j'adore qui s'appelle René Guy Cadou et qui avait écrit ces vers que je trouve magnifiques. Il disait à Hélène penche-toi sur l'oreille un peu basse du trèfle, avertis les chevaux, tous les chevaux que la terre est sauvée. Dis-leur que tout est beau, des ciguës et des ronces, qu'il a suffi de ton amour pour tout changer. Et ça m'avait traversé le cœur, ce passage. Et il y avait cet hommage à ce poète qui, en fait, est quelqu'un qui a vraiment, vraiment compté pour moi dans tous mes écrits.
Vous aimez vous faire piquer, vous ?
J'adore ça.
En tout cas, dans ce recueil, vous investissez le registre de l'intime, ce qui n'est pas du tout le cas dans vos romans, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce que partir de soi a plus de sens pour vous lorsqu'il s'agit d'écrire de la poésie ?
Je crois que lorsque j'ai commencé à écrire des romans, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. J'ai publié il y a 12 ans le premier texte. Et c'était une époque où tous
Elle avait 7 ans.
où tous les auteurs, en fait, les jeunes auteurs racontaient leur vie. Et moi, j'avais absolument rien à raconter puisque j'avais 7 ans. Voilà. J'avais rien à raconter et j'étais nourrie d'imaginaire. J'étais nourrie de littérature américaine. J'étais nourrie de poésie. J'étais nourrie par Paul Grimaud, Le Roi et l'Oiseau, ces choses-là. Et donc, j'ai commencé à écrire des romans en me disant la seule chose que tu dois faire, c'est surtout ne pas parler de toi. Et plus j'écrivais des romans, plus j'avais ce besoin, à un moment donné, d'aborder des thèmes intimes. Pourtant, je restais totalement en périphérie de mes propres histoires. Et c'est par la poésie, par son efficacité, par sa simplicité, par sa violence, que j'ai pu dire à un moment donné, bah voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai eu mal ou non. Et peut-être parce que c'était sur les réseaux sociaux, c'était plus simple aussi.
Vous racontez quand même des histoires, ça il faut le dire, c'est même un parti pris très important, le parti pris narratif. Dans quelle veine, dans quel héritage poétique est-ce que vous vous inscrivez par là?
C'est une grande question. Je pense que je suis à la fois de ces poètes, que ce soit Cadou, un petit peu Apollinaire par cette simplicité, ces histoires qu'il raconte, évidemment par la poésie américaine. Enfin, moi, je déteste Charles Bukowski comme romancier, mais je l'adore comme poète. Évidemment, Prévert, je ne peux pas ne pas le citer. Après, il y a des poètes contemporains comme William Cliff qui ont énormément compté pour moi, parce que quand je lisais, je crois que c'est America ou En Amérique, le recueil de William Cliff, je lisais ça et je me dis, mais enfin, on peut faire de la poésie, on n'est pas obligé de faire des rimes, on n'est pas obligé de faire des alexandrins, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, quand j'ai compris que la poésie était le dernier espace de liberté disponible, j'ai eu envie de m'y rouler.
Pourquoi est-ce que c'est important de continuer de raconter des histoires aujourd'hui, Cécile Coulon? Je vous pose la question à la romancière et à la poétesse, parce que je sais que souvent, lorsque vous dites que vous êtes écrivain, on vous demande... Est-ce que c'est votre vrai métier? Comme si écrivain, ça n'en était pas un. Alors que dire du métier de poète, d'ailleurs? Quel métier est-ce que ça pourrait bien être?
Poète?
Ouais.
Pour moi, le métier de poète, c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui est très monacal, c'est comme être un moine. C'est accorder son pardon à l'humanité entière. Je trouve ça très beau. Ça demande de faire don de soi, ça demande une certaine forme d'humilité. Et surtout, c'est raconter un tas d'histoires, mais en silence, et ne garder que ce qui est très important.
Mais pardonner quoi ?
Toutes les horreurs. Que ce soit les petites, ce que moi j'appelle les petites horreurs, c'est quand quelqu'un vous dit qu'il va vous rencontrer à un endroit et qu'il vient pas. Se faire poser un lapin est une petite horreur, surtout si on est très amoureux, par exemple. C'est pardonner, je sais pas si on peut dire pardonner que des populations entières soient décimées, on ne pardonne pas ça, mais on voit ce qui se passe et on pardonne dans le sens où on dit qu'on ne refera jamais ça. Aujourd'hui, c'est extrêmement important de parler ça. On fête la fin de la guerre, donc dire ça ne doit pas arriver de nouveau, et pourtant ça arrive dans d'autres pays du monde. Et je pense que la poésie, elle est là pour dire s'il vous plaît. Ça ne devrait pas arriver, ça ne doit pas arriver. Nous devons, en tant que personne, en tant qu'individu, faire en sorte que ça n'arrive pas de nouveau.
Pourquoi est-ce qu'on écrit des poèmes? C'est une grande question et je pense que la réponse, elle est en partie dans le poème que vous avez accepté de nous livrer en exclusivité ce matin. Que d'exclusivité dans Boomerang. C'est un texte inédit, assez magnifique, je dois dire. On vous écoute.
Pourquoi écrire un poème? C'est pour le chauffeur de taxi. Il a conduit toute la nuit. Des gens se sont aimés sur la banquette arrière. Des amoureux chuchotaient. Oui. Encore, s'il te plaît. La radio couvrait leur voix, il entendait quand même. J'écris pour savoir si cet homme a quelqu'un qui lui dit « Oui, encore, s'il te plaît, n'oublie pas que je t'aime. » C'est pour l'agriculteur. 5h du matin, bottes sales, café chaud, ces vaches font chanter leurs cloches en traversant la route, elles sont belles comme des anges, leurs yeux sont des étoiles quand elles passent devant la grange. J'écris pour ce regard-là, dans cette vallée profonde. C'est pour la femme de ménage au 14e étage. Elle renverse des poubelles. Et dans l'immeuble d'en face, une autre femme la regarde nettoyer la reine des traders, des avocats et des cadres supérieurs. J'écris pour accompagner le torchon qu'elle passe 100 fois sur les écrans d'ordinateur. C'est pour l'infirmière qui aide quelqu'un à passer de l'autre côté. Ce n'est jamais facile, mais elle sait que certaines lumières ont plus d'éclat une fois éteintes. C'est pour les dernières fois qu'on fait l'amour alors qu'on pensait que ça durerait toujours. Les amis, les films et les romans nous avaient pourtant prévenus. Non, ça ne durera pas. On se croyait plus forts et nous ne l'étions pas. C'est pour eux, mais surtout c'est pour toi. Je me couche dans ta vie comme un chat dans un rayon de soleil. J'écris pour te dire que je prends le risque de t'aimer. J'accepte d'être si atrocement, si humainement vulnérable à tes côtés. C'est pour eux, mais surtout c'est pour toi. J'écris parce qu'ici tout va bien, sauf que tu n'es pas là.
Se peut-il, Cécile Coulon, que la poésie soit toujours un geste d'amour, que derrière chaque poème se cache une déclaration d'amour?
Je l'espère en tout cas.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Cécile, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que le prix Apollinaire pour votre recueil Les Ronces, publié au Castor Astral, vous sera remis ce soir au Domago, ce restaurant qui était tant aimé de Guillaume Apollinaire, et que vous venez également de recevoir, Cécile, le prix de la révélation poésie décerné par la Société des gens de lettres. Tout va bien.
Tout va extrêmement bien.
Tout va bien.
C'est le meilleur lundi matin de mon année, moi.
Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Fantasy, Georgia Smith sur France Inter, que c'est beau. C'est l'heure de Sonia De Villers, les médias, l'instant M.